L'après-midi va se décomposer par donc un résumé de chaque atelier pour l'ensemble des participants de ce qui s'est passé dans notre atelier, donc atelier bâtiment, industrie. Voilà. Patrick, si tu veux bien.
Donc notre atelier, nous on a divisé ça en trois parties, disons deux grosses parties et puis une sous-partie des tribunaux administratifs. On a parlé au départ des procédures pénales et des expertises pénales, des expertises civiles et des expertises administratives. Donc, sur les expertises pénales, ce qui a été dit essentiellement, c'est le fait de l'obligation de produire au début de l'expertise, avant de commencer l'expertise, de produire un devis et d'attendre que ce devis soit accepté par les magistrats pour commencer les opérations d'expertise. Ce qui a été dit aussi, alors j'essaie de reprendre un peu toutes mes notes et puis de les résumer au maximum, puisqu'on n'a quand même pas beaucoup de temps pour faire le bilan de tout ce qui s'est dit ce matin. Ce qui est important, oui, c'est que toujours dans ces procédures pénales, le déplacement se facture, contrairement au civil où on facture généralement des déplacements qui comportent déplacement plus le temps plus tout à des taux qui sont de l'ordre de 1,20 € quand on est au civil. Au pénal, on ne peut pas excéder 35 centimes du kilomètre. Et on ne facture que le kilomètre, mais pas le. Et on facture le temps de déplacement autrement, si vous voulez.
Mais souvent c'est 50% d'ailleurs.
Souvent 50%
du montant horaire.
Mais on ne peut pas facturer si on prend, si vous voulez, les tarifs officiels de kilométrage pour la voiture que je possède, qui est une voiture de 10 chevaux, le ministère des Finances dit que c'est 58 centimes du kilomètre. Or, si on facture à 58 centimes du kilomètre, c'est refusé par les tribunaux. On nous dit que le maximum, c'est 35. Donc, on prend 35 centimes. Ce n'est pas du tout le tarif officiel, hein, ni le tarif du ministère de l'économie, ni le tarif, j'avais trouvé un autre tarif aussi qui venait d'un ministère, où pour une voiture de 10 chevaux, c'est 58 centimes. Moi, au pénal, quand je facture 58 centimes, on me dit non, c'est 35 centimes. Donc maintenant, je facture 35 centimes du kilomètre. Mais on perd de l'argent, quoi. C'est ça que je veux dire. Ou alors, si, il y a ce que j'ai entendu ce matin, où on dit ce que vous ne pouvez pas facturer normalement, vous rajoutez sur votre temps, ce qui ne me paraît pas tout à fait honnête. Donc. Non, je dis que ce n'est pas honnête de dire que je facture 35 centimes et je rajoute une heure, mais j'ai que 5 minutes, donc je passe là-dessus.
Voilà. Hein? Oui, le petit papier que je viens de lui passer, c'est qu'il ne nous reste que 5 minutes pour conclure.
Donc je dis qu'on facture à 35 centimes et on se débrouille pour ne pas perdre d'argent. Voilà. Même si la procédure utilisée n'est pas forcément la meilleure. Alors, au civil, hein. Moi j'ai retenu essentiellement une chose qui m'a paru extrêmement intéressante, c'est la proposition de la présidente du tribunal de Troyes, qui dit que lancer des expertises avec une consignation de base de 500 voire 800 euros, ça paraît actuellement complètement ridicule, et que, avec l'expérience, elle a constaté, et elle a parlé essentiellement des expertises de bâtiment, mais elle se révèle aussi exacte dans nos spécialités qu'une expertise à moins de 2000 euros, ça n'existe pas. Donc, la consignation de départ, elle la met pour des expertises simples à 2000 euros. Ce qui fait que ça évite de faire ce qu'on fait actuellement sur le tribunal de, en particulier sur le tribunal de Reims, où c'est le tribunal pour lequel je suis le plus souvent nommé. Ça évite de faire une première réunion, un devis et immédiatement une demande de consignation complémentaire, parce qu'il n'y a eu que 800 ou 900 euros de consignés au départ et qu'on voit bien que ça ne va pas aller. Donc on fait une première réunion, ça a déjà pris un mois, on fait une demande de consignation complémentaire, on attend la réponse de l'ordonnance, on attend le versement de la consignation, et on a expiré les 3 mois de délai qu'on avait d'attribuer pour traiter la mission. Alors que si on avait consigné au départ 2000 euros, ça évitait de faire la demande de consignation complémentaire, et on pouvait traiter, dans le cas d'expertise simple, dans les 3 mois, on pouvait traiter la totalité de la mission. Alors que le fait de donner une consignation faible au départ fait que, généralement, on est obligé de demander en plus des prorogations de délai. Donc, il m'a semblé que cette proposition était intéressante. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent les présidents de TGI qui sont là. Je ne sais pas s'ils travaillent aussi dans cette directive-là, mais en tant qu'expert, ça me paraissait intéressant. Et, sachant aussi que pour les demandeurs de la mission d'expertise, c'est très intéressant de leur dire dès le départ qu'une opération d'expertise à 800 euros dans le domaine technique, ils ne la trouveront pas. Ce n'est pas gérable. Donc, il faut qu'ils s'attendent au départ à entre 2000 et 3000 euros. Et là, ça me paraît honnête, quoi, parce que dès le départ, dès l'ordonnance, ils savent très bien que si la mission se passe simplement, ils vont en avoir pour 3000 euros. Alors que leur dire, vous en avez pour 800 euros, et puis un mois après, dire l'expert, il demande 1200 euros supplémentaires, ça ne me paraît pas aller dans l'ordre logique, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a dit encore? Oui, il y a eu des particularités. Il y a un expert de Reims désigné dans le Haut-Rhin ou Bas-Rhin, mais un des départements Haut-Rhin, Moselle, Bas-Rhin, Meurthe-et-Moselle, qui a dit que les tarifs proposés par ces juridictions-là n'avaient rien à voir avec les barèmes qu'on utilise, nous, dans la Marne, ou dans notre juridiction. Il semblerait que dans ces départements, c'est la Cour d'appel qui a défini des barèmes d'expertise en fonction de la qualification des experts, ingénieurs, techniciens, etc. Les barèmes sont définis et les experts appliquent ces barèmes-là. Ici, on a une plus grande liberté de travail et personnellement, je trouve que cette plus grande liberté n'est pas inintéressante du tout. Mais je serai amené à recommenter ça quand je ferai la présentation du questionnaire qu'on a fait remplir, où on revient aussi sur la notion de grille. C'est une des questions et je la recommenterai à ce moment-là.
Alors, simplement, pour le problème qui avait été évoqué sur le delta du tarif était en fait moins grave, sous-entendu, l'expert qui soulevait le problème nous avait dit que c'était du 60 euros de l'heure, y compris frais de secrétariat, frais de déplacement, etc. Or, on a découvert, grâce à 3 experts de la cour de la compagnie de Metz, qui nous ont dit pas du tout, c'est à l'heure actuelle un ingénieur est aux alentours de 87 euros de l'heure, plus frais de secrétariat en plus de ces 87, donc les frais de secrétariat sont pris en compte, les frais de déplacement. Voilà. Donc, en fait, la dérive n'est pas très, très importante par rapport aux tarifs de la Cour d'appel de Reims. Hein. On est à peu près dans les mêmes tarifs, parce qu'un ingénieur sur Reims tourne entre 90 et 110 euros de l'heure. Hein. C'est plus... Le même problème qui avait été évoqué, mais je crois que ça faisait 4 ou 5 ans. Voilà, donc en 4 ou 5 ans, les choses se sont rétablies. Sinon, on a parlé aussi de la partie tribunal administratif, où là, on a découvert effectivement que on peut obtenir des avances sur en cours d'expertise et notamment sur les expertises très longues et que donc quand on est en procédure standard, la procédure sur le fond qui est une procédure un peu spéciale, mais toutes les autres procédures nous permettent d'obtenir au fur et à mesure de l'avancement de l'expertise des avances qui permettent quand même de conduire une expertise dans des conditions normales. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour maintenant.
Encore un point. Dérive, Un point qui a été aussi traité ce matin, c'est la mise en place de systèmes de communication par mail avec l'ensemble des tribunaux. Il me semble que les magistrats demandent que les experts communiquent et puis fassent part des difficultés qu'on peut rencontrer au cours de nos expertises. Si on avait moyen de communiquer par mail, il me semble que ce serait extrêmement commode pour expliquer les problèmes qu'on rencontre et puis avoir des réponses rapides. Les solutions de joindre les magistrats par téléphone, c'est quasiment pas possible. On a des problèmes énormes parce qu'on tombe sur un standard et le standard ne passe pas forcément la personne qu'on demande. Alors que si il y avait une boîte mail dédiée aux experts, il y aurait bien au niveau de la magistrature quelqu'un qui lirait le mail immédiatement et qui pourra apporter une réponse, je pense, extrêmement rapidement.
Alors l'idée justement pour ce problème de liaison, c'était de dire que finalement dans l'ordonnance que reçoit l'expert, il pourrait être simplement écrit l'adresse mail de la boîte qu'on pourra utiliser pour ces échanges entre experts et magistrats. Voilà, je crois qu'on a fait un résumé.
Et une question, si je réinsiste encore sur une question qui m'a été posée à l'extérieur de la réunion de ce matin, mais qui me paraît importante, c'est la qualification des experts et la nomenclature qui existe, qui est une nomenclature qui dépend du ministère, mais qui visiblement n'est pas adaptée, parce que il y a des spécialités qu'on ne trouve pas, il y a des spécialités qui sont très mal définies. Et je pense en particulier dans mon domaine, l'ingénierie mécanique, où on nous dit vous ne pouvez faire appel à un sapiteur que s'il ne correspond pas, que s'il ne travaille pas dans la même spécialité que vous. En ingénierie mécanique, les disciplines sont extrêmement vastes et on va trouver des gens qui vont ne pas répondre, ne pas être capables de répondre à un domaine de l'ingénierie mécanique, alors que ça fait partie de leur spécialité. Je pense, par exemple, sur les calculs de structure par éléments finis. On est tous, je vois M. Bréard qui remue la tête, là, parce qu'il est dans la même spécialité que moi, les calculs par éléments finis, on sait tous ce que c'est, on sait tous les interpréter, mais on n'est pas tous capables de les gérer, parce qu'on n'a pas le matériel, parce qu'il faut aussi une habitude énorme pour les gérer correctement, et c'est pourtant des spécialités qui vont être dans l'ingénierie mécanique. Or, il se peut très bien qu'un expert ingénierie mécanique demande un sapiteur aussi expert ingénierie mécanique pour traiter un point très particulier de calcul par élément fini. Et là alors, la nomenclature ne colle pas, et puis les textes sur la définition du sapiteur ne collent plus non plus.
Alors, il y a moyen de contourner avec le CETIM, qui est capable de faire un calcul par élément fini, et c'est un laboratoire, donc on contourne un petit peu le problème. Voilà.
Mais les prix d'un sapiteur et les prix du CETIM vont être totalement différents.
Oui, ça c'est vrai.
Parce qu'un sapiteur va se faire payer au même tarif qu'un expert de la même spécialité, alors que le CETIM ont des coûts qui sont là, le CETIM ou autre, hein, CETIM, LNE, Institut de Soudure, ont des tarifs qui sont nettement supérieurs aux nôtres. Bon, je m'en vais. Vous allez m'en supporter.
Nous étions-nous à l'atelier plutôt santé, et d'ailleurs je me suis senti très bien, puisque finalement c'est pas ma spécialité, mais...
Tu étais en sécurité.
J'étais en sécurité, voilà. Alors, on va faire très rapidement de notre côté aussi. On distingue le pénal du civil et l'administratif, bien évidemment. Alors, le pénal, eh bien, on a bien compris que tout était bien cadré par des règles très strictes, hein, puisqu'il y a des missions qui sont tarifées. Hein, et puis, il y a le magistrat qui n'a pas le choix. Il est obligé parfois, dans certaines situations, d'avoir recours à l'expert, ce qui n'est pas le cas en civil ou en administratif. Bon, au niveau du civil, c'est vrai qu'on constate sur le plan national des différences entre les experts. Alors, certains diront que les experts parisiens sont plus chers que les experts de, de province. Mais,
la vie est plus chère à Paris.
La vie est plus chère à Paris, mais on constate, les magistrats ont constaté quand même que de notre ressort, eh bien, ces différences-là existaient aussi. Certains experts ont des honoraires bien plus élevés que les autres. Alors, certains experts facturent au forfait, d'autres au temps passé. Et alors, on s'est demandé si au temps passé, on devait finalement le justiciable devait rémunérer un expert qui est peut-être un peu plus lent que la moyenne. Puisqu'il y a quand même des experts qui sont beaucoup plus, j'allais dire véloce, c'est pas le mot, mais plus rapide dans leur réflexion. On constate que la plupart des médecins facturent leur activité intellectuelle et facturent par ailleurs ce qu'ils appellent les débours. Donc cette distinction est faite assez régulièrement sur leurs notes, sur leur mémoire. Au niveau du tribunal, au niveau de l'administratif, eh bien là, il n'y a pas de tarification comme en civil non plus, bien évidemment. Il n'y a pas de tarification, mais que je me souvienne en civil, qu'est-ce qu'on a pu se dire ? On a dit pas mal de choses. Marie-Hélène, si tu veux m'aider.
Alors, il y a deux types de facturation qu'on peut envisager et qui ont été discutées. On peut imaginer une facturation au forfait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on paye une expertise, un tarif donné, comme c'est fait pour les expertises pour l'ONIAM, amiable en CCI. C'est un forfait, on est payé 700 euros par expertise. Donc, même si, que ce soit compliqué ou que ce soit simple, on estime qu'une expertise type ONIAM s'est payée au tarif de 700 euros. Et puis la deuxième tarification, c'est une tarification à l'heure. Et donc c'est un petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, d'une part, on peut discuter le tarif horaire, parce que comme tu disais, il y en a qui sont très rapides et puis il y en a qui sont très lents. Et puis il y a des journées où on n'est pas en forme, on mettra un temps fou, et puis d'autres, c'est le contraire. Donc, est-ce que c'est vraiment une tarification juste, la tarification horaire ? Enfin, on a beaucoup débattu de ce problème-là, sans arriver à une conclusion forcément généralisable.
Alors, il y a le problème des traducteurs-interprètes, hein, qui ont des émoluments relativement faibles et qui parfois se déplacent et parcourent de nombreux kilomètres pour pouvoir accomplir leur mission. Souvent, une mission qui est la traduction d'autres experts qui interviennent. Et alors, on se posait le problème des frais kilométriques, de savoir si le temps qu'ils passent dans leur véhicule était facturable ou pas. La réponse est claire, au niveau du pénal, on facture des indemnités kilométriques et non pas le temps qu'on passe en voiture. C'est posé aussi le problème sur le plan civil comme sur le plan administratif du modèle économique qui n'est absolument pas du tout le même pour un expert que pour un avocat ou d'autres professions libérales. À savoir que si on se destine à une activité expertale, eh bien, on sait très bien qu'on doit renoncer à certaines marges bénéficiaires que l'on peut revendiquer, si je puis dire, dans notre activité habituelle de professionnel libéral. Voilà.
Oui, peut-être un autre point qui a été abordé, c'est le problème de la rémunération, que ce soit au forfait ou que ce soit à l'heure. Qui ne tient pas en compte de la responsabilité et du poids des conséquences de l'avis de l'expert. Je veux parler des expertises en psychiatrie, aux conséquences extrêmement lourdes, et finalement on n'en tient pas compte dans le tarif de l'expertise. Donc on a débattu aussi un petit peu de ça.
Alors nous avions aussi le plaisir d'avoir, lors de notre atelier, donc, le président de la compagnie de Metz, qui, comme nous l'avions entendu précédemment, ont des habitudes très particulières, des habitudes d'une législation particulière.
Bien, notre atelier regroupait des gens essentiellement de l'ensemble des services. Nous étions peu nombreux, mais malgré tout, nous avons eu des échanges fructueux. Et je vais laisser le soin à notre rapporteur, M. Masclet, de vous livrer le fruit de nos réflexions.
Bien. Je remercie l'animateur de l'atelier. Oui, la particularité de notre atelier, c'est que nous étions effectivement peu nombreux, que nous avions peu de personnes ayant fait des expertises judiciaires. dans le groupe et qu'on en a quand même tiré quelques enseignements grâce à la présence de Madame la Présidente du tribunal de grande instance de Reims et également de Maître Badret. C'est à lui qu'on doit la première définition de la mauvaise expertise, celle qu'il faut fuir à tout prix, ça coûte cher et ça ne sert à rien. La remarque générale, c'est qu'il convient, toutes les parties ont le droit de savoir à quelles dépenses elles s'exposent en poursuivant une procédure, donc à savoir combien l'expert va lui prendre. Nous avons convenu que personne n'a défendu plus exactement une autre méthode, que la méthode de calcul des honoraires tenait au nombre d'heures passées à accomplir le rapport. C'est finalement un devis chronologique. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais on n'a pas trouvé d'autre solution. Quant à fixer le nombre d'heures et le prix de l'heure, nous n'avons comme document officiel qu'un barème indicatif de M. Deschler, premier président de l'époque, qui remonte à 2006. Donc, il reste quand même indicatif, d'une part, comme tous les barèmes, d'ailleurs. Deuxièmement, c'est de savoir quand est-ce que nous pourrons connaître le nombre d'heures passées à réaliser le rapport qu'on nous a demandé d'établir. Il semble qu'on ne puisse l'obtenir que lorsque le pré-rapport, puisque le pré-rapport s'est généralisé, qu'il est souvent obligatoire, est rédigé, qu'il a été en fait, si ce n'est renvoyé aux parties, parce qu'il y a toujours le danger que la partie consignataire refuse d'aller plus loin à partir de la mesure où nous lui donnerions éventuellement tort, mais dans la mesure où on saura quelles vont être les réactions des avocats des parties et surtout quelle va être l'importance des dires, puisqu'il y a des expertises qui sont plus importantes au niveau des dires qu'au niveau de la mission qu'on nous a demandée. Les personnes rassemblées ont convenu que les provisions initiales étaient très faibles, ça c'est une lapalissade. On peut se demander si ce n'est pas volontaire ou s'il n'y a pas une question de principe, parce que donner 400 euros par exemple pour une expertise, c'est certainement volontaire de la part du magistrat qui les a donnés. L'opinion générale semblerait de mettre un minimum de 1000 euros pour une des expertises, parce qu'il est bien rare qu'une expertise s'achève en dessous de 1000 euros. Il y a aussi un élément essentiel pour la provision initiale, c'est qu'il est absolument, s'il incombe à l'expert de faire savoir à combien se coûtera son intervention, si c'est une obligation qui pèse sur lui, il y a une obligation qui pèserait effectivement sur tout l'instrument judiciaire, c'est de faire savoir aux parties à quoi elles s'exposent. Quand un avocat laisse passer une demande d'expertise avec une provision de 500 euros et que la partie nous répond, quand on l'a au téléphone, qu'elle était persuadée que ça ne coûtait que 500 euros, il y a sans doute un problème. Ensuite, un élément par contre fort important, c'est la notion d'urgence. Parce que nous avons souvent parlé des difficultés des expertises, mais pas de leur urgence. Il y a des expertises qui sont plus ou moins urgentes, et l'urgence est un des éléments du coût, c'est un élément décisif dans la mesure où ça amène à faire passer des expertises avant les autres, et à leur consacrer plus de temps qu'on l'aurait normalement consacré. Or ça, on ne l'a pas nécessairement, et l'avis des personnes rassemblées, ça serait que l'expert se voit signaler l'urgence des expertises. On a souhaité, alors ça c'est peut-être un vœu pieux, que le magistrat nommant un expert ou un collaborateur ou une collaboratrice du magistrat téléphone à l'expert pour lui demander d'une part s'il est susceptible d'accepter cette expertise et demander également combien ça coûterait. Bon, c'est une suggestion. Ça, c'était donc pour le prévisionnel. Pour le déroulement, nous avons tous été d'accord avec l'aval du magistrat présent, pour dire que lorsqu'on a demandé une provision complémentaire, il convient de suspendre l'opération. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité souhaitable du côté des intérêts de l'expert, de suspendre la poursuite de nos opérations à la réponse faite sur la provision complémentaire. Ensuite, que cette attente se prolonge jusqu'au versement de la provision complémentaire qui n'est pas toujours versée. Par ailleurs, il ne faut jamais oublier que lorsqu'on demande une provision complémentaire, ça ne suspend pas le délai pour autant. Donc, il faut demander concurremment, lorsqu'on demande une provision complémentaire, un délai nouveau, qui est sans doute difficile à calculer parce qu'on ne sait pas quand tombera la réponse à la provision complémentaire et quand elle sera versée. Il y a un élément, mais alors on sort un peu de la provision, mais ça a une certaine importance. Ça, c'est le paiement des honoraires. Vous savez que depuis la modification du code de procédure civile parvenue à la fin de l'année dernière, il faut que nous fassions tenir aux parties, lorsqu'on dépose le rapport, une copie de notre note d'honoraire et que nous l'adressions par un moyen qui permette de s'assurer qu'ils l'aient reçu, c'est-à-dire lui ont recommandé avec accusé de réception. L'article du code de procédure civile étant récent, il y a eu un moment de flottement où on nous a demandé, plusieurs TGI nous ont demandé de fournir, lorsqu'on déposait le rapport avec la note d'expertise, photocopie de l'accusé de réception. Il semble que les procédés soient désormais harmonisés. Il convient de mettre en fin de rapport la mention suivant laquelle nous avons déposé auprès de chaque partie en même temps que le rapport copie de notre note d'honoraire. Effectivement, il faut le faire puisqu'on est quand même amené à nous le réclamer. C'est un élément prévu par le code de procédure.
En accord avec Madame Bourgogne, présidente du TGI de Reims, c'est que des discussions sont en cours avec la compagnie, en particulier notre président, pour revoir le montant de la provision initiale, de faire des grandes catégories professionnelles, probablement santé, bâtiment, qu'on a fait aujourd'hui, service, de revoir également les délais initiaux qui sont fixés, et également de mettre en place des échanges par mail avec une adresse dédiée au tribunal.
Donc pour ce colloque, on avait demandé aux experts, on leur avait envoyé un questionnaire basé sur la méthode de calcul de leur rémunération. Et les questions, en gros, elles sont extrêmement simples. Les tribunaux d'origine de l'expertise, comment évaluez-vous le montant de vos honoraires ? Modalités de paiement et rôle des avocats. Voilà en gros les grandes familles de questions. Donc les résultats sont les suivants. Répartition des tribunaux. Ben, si on regarde et si on s'intéresse uniquement aux expertises de justice, c'est-à-dire si on laisse de côté les expertises des assurances, les expertises privées et les autres, on constate que sur les tribunaux, on a globalement autant d'expertises pénales administrative et que commerciale, et que le seul tribunal qui fournit le plus d'expertise, c'est visiblement le tribunal civil. Hein, donc tous les TGI. Sur l'évaluation du montant des honoraires, on avait posé la question, calculez-vous vos honoraires sur un taux horaire, honoraire tarifé ou sur un forfait? On constate que la grande majorité utilise le taux horaire et que si on regarde dans le détail du questionnaire, on constate que le taux horaire varie entre 50 euros jusqu'à 105 euros. Attention, il s'agit d'un questionnaire qui est établi sur la base des réponses qu'on a reçues, c'est-à-dire 56 réponses. Donc c'est l'exploitation de ça. Et sur les 56 réponses, on constate qu'on a des taux horaires qui varient de 50 euros à 150 euros. Pour le reste, facturation du secrétariat, déplacement matériel spécifique, on constate que 76% des experts facturent le secrétariat. Pour la facturation de ce secrétariat, on en a 25% qui utilisent le taux horaire 75% qui utilisent un taux à la feuille, que le taux horaire, pour ceux qui utilisent le taux horaire, varie de 25 euros à 50 euros, et pour ceux qui tarifent à la feuille, ça varie entre 4,57 euros et 8,80 euros la feuille. Que on a un, parmi toutes les réponses que j'ai eues, j'ai un cas particulier. Un des experts facture son temps de secrétariat à 5% des honoraires totaux de l'expertise. Pour les déplacements, on a 96% des experts qui facturent le déplacement, et avec encore une fois un taux qui varie de 20 centimes d'euros à 1,48 €. Alors je crois que la disparité qu'on a entre 20 centimes et 1,48 €, les 20 centimes d'euros sont pour les experts qui travaillent au pénal, où on facture le déplacement très peu cher, et pour les 1,48 €, c'est les experts qui travaillent au civil, où là dans les 1,48 €, le temps de déplacement, tout est compris, quoi. 1,48 €, c'est le temps où on est parti, voir si on est obligé de manger sur place, le repas sur place est compté dans les 1,48 €, quoi, hein. 26% des experts utilisent du matériel spécifique. Quand j'entends matériel spécifique, je pense essentiellement aux experts qui font appel à des laboratoires. Et alors là, il y a peut-être une disparité dans les résultats, où la question n'a pas été comprise dans le même sens que moi, parce que je constate qu'il n'y aurait que 18% qui factureraient l'utilisation de ce matériel spécifique. Dans ma spécialité, quand je fais appel à un laboratoire, je vois mal comment je ne pourrais pas facturer le coût que me demande le laboratoire. Alors, pour le travail sur devis, on a une grande majorité des gens qui font des devis, hein, puisqu'on a 55% des gens qui font des devis, et on a des gens qui n'en font jamais, on a 20%, et puis des gens qui en font quelquefois, 25%. Alors, après ça, on a posé des questions sur les consignations. Donc, on voit immédiatement que 53% des experts considèrent que la consignation initiale est toujours insuffisante. On a 43% des experts qui disent que parfois la consignation initiale est suffisante, et on a uniquement 4% des experts qui disent que la consignation initiale est suffisante. C'est que 4% quand même. Alors, le problème de cette consignation, mais je l'exprimais déjà tout à l'heure, c'est que consignation insuffisante, on le constate au moment où on va établir notre devis, c'est-à-dire après la première réunion d'expertise. Il s'est passé entre la réception de l'ordonnance et la réception de l'avis de consignation initiale, et puis notre première réunion d'expertise, il s'est passé un mois. On constate que la consignation est insuffisante. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une demande de consignation complémentaire. On regarde le tableau qui est là, on a réponse des magistrats au mieux dans le mois, 68%. Plus de 3 mois, parfois ça existe, il y a 4% des magistrats qui répondent plus de 3 mois après la demande de consignation. Ce qui veut dire qu'avant de commencer la deuxième réunion d'expertise, entre le moment où on a fait le moment où on a eu l'ordonnance, première réunion d'expertise, résultat de la consignation complémentaire, il s'est passé dans les cas les plus défavorables, il s'est passé 4 mois. On n'a pas fait de deuxième réunion d'expertise. Et une fois qu'on a la réponse du magistrat qui nous dit que la consignation complémentaire est validé, après ça, il faut attendre le versement de cette consignation complémentaire. Et si on regarde le tableau qui suit, on constate que le versement de la consignation complémentaire, il se fait dans le mois qui suit 27%, dans les 3 mois qui suivent, c'est-à-dire la majorité des cas, 53%. Ce qui veut dire qu'on a entre le moment de la première réunion d'expertise et le moment où on va pouvoir commencer la deuxième réunion d'expertise, il s'est passé 6 mois. 6 mois durant lesquels il ne s'est rien produit du tout, puisqu'on attend des papiers. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et ça a été signalé ce matin au niveau de l'atelier, si la consignation de départ était harmonisée par rapport au travail qui est demandé dans la mission, on gagnerait 6 mois, hein, puisque ça éviterait toute cette procédure. Et que ça nous permettrait peut-être à ce moment-là de respecter les 3 mois de délai qui nous sont imposés dans la mission de départ. Quoi.
Alors, est-ce qu'il y a des experts qui commencent avec, qui commencent leurs opérations d'expertise avant que la consignation, d'origine soit versée? Il y a 6%, 8% des experts qui commencent quand même. Dans une grande majorité des cas, 93%, on attend qu'on ait le papier officiel de versement de consignation avant de commencer, ce qui me paraît une protection élémentaire. Quoi. Le fait de commencer sans que la consignation soit versée, ça peut amener à des risques importants et des missions qui ne sont jamais rémunérées à la fin. Alors ensuite, on a questionné un peu les gens pour savoir quelle était en gros leur rémunération. Alors, la moyenne, alors si vous voulez, alors encore une fois, hein, c'est sur 56 éléments et c'est tout domaine confondu. On a une moyenne des rémunérations les plus hautes, 23 520 euros, avec un maximum de 200 000 euros et un minimum de 250 euros. Moyenne des rémunérations les plus basses, 1 340 euros, avec un maximum de 4 000 euros, un minimum de 20 euros. Ça peut être, oui, ça peut être, ou un traducteur. Parce que pour 20 euros... Alors, encore une fois, globalement, le coût moyen de l'expertise, hein, parce que sachant que les valeurs maximum de 200 000 euros, c'est quand même des cas très particuliers, hein, c'est pas... Toutes les expertises n'ont pas ce coût-là, heureusement. Le coût moyen de l'expertise, c'est 3 530 euros, avec un maximum en moyenne de 13 500 euros et un minimum de 100 euros. Pareil, ce minimum de 100 euros, ça doit être un traducteur. Hein, donc, qui ne travaille pas tout à fait dans les mêmes conditions que nous, quoi. Tout au moins que dans ma spécialité. Alors ensuite, on a demandé aux experts s'ils souhaitaient voir qu'il y ait une grille d'honoraires qui soit établie par la Cour. Et là, on a des réponses. 58% des experts répondent qu'ils souhaiteraient voir une grille d'honoraires fixée par les cours. 41,5% ne le souhaitent pas. Ou si les cours proposaient une grille, il faudrait que ce soit une grille indicative, mais qu'on ne soit pas obligé de la respecter. Et puis, il y a certains experts qui disent que ce serait peut-être intéressant que ce soit la compagnie qui propose une grille d'évaluation et qui préférerait voir une grille proposée par la compagnie et émanant de la compagnie plutôt que de voir une grille proposée par la Cour. Et ensuite, on avait posé comme question le rôle des avocats. Alors là, je n'ai pas fait de pourcentage parce qu'il y avait plusieurs sous-questions. J'ai pas loupé les modalités de paiement. Les modalités de paiement, on demandait si les experts se faisaient payer à titre personnel, s'ils se faisaient payer pour une administration, s'ils se faisaient payer comme représentants d'une société inscrite sur la liste OCA ou non inscrite sur la liste OCA. Donc on a 46 experts qui répondent en disant que c'est une rémunération personnelle. Deux experts qui disent que c'est une rémunération pour le compte d'une administration. Deux experts qui disent qu'il s'agit d'une rémunération pour une société inscrite sur la liste du CA. Et neuf qui disent que ce n'est pas inscrit sur la liste du CA. 61% des experts répondent que les délais pour la rémunération sont difficilement supportables, alors qu'il y en a 38% qui disent que les délais ne posent aucun problème. Dans les 61,5% qui disent que les délais de rémunération sont insupportables, c'est vrai pour les gens qui disent en début de déclaration qu'ils ne travaillent que pour le pénal. Ceux qui travaillent que pour le pénal trouvent tous, à ce moment-là, tous, 100%, que les délais sont insupportables. Quoi. Mais on a eu des explications ce matin sur les délais de paiement au pénal, et je pense que, vu les explications qu'on a eues ce matin, ça risque de ne pas s'arranger demain. Alors ensuite, la dernière question de ce questionnaire, c'était le rôle des avocats. On demandait aux experts s'ils pensaient que le rôle des avocats avait un coût
sur l'expertise. Globalement, c'est moitié-moitié. Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Je n'ai pas refait de pourcentage sur cette partie-là parce que certains experts n'ont pas répondu à toutes les questions et ramener ça à des pourcentages, c'était un calcul un peu scabreux. Donc j'ai pris simplement le nombre d'experts qui ont répondu, si vous voulez. Donc 24 qui pensent que oui, 25 qui pensent que non. Influence sur le coût indirect de l'expertise, on sous-entendait dans la question, est-ce que les avocats incitent à ce qu'on utilise des laboratoires ou qu'on fasse participer d'autres personnes, des sapiteurs ou des choses comme ça. 27 experts pensent que oui, 20 experts pensent que non. Et au niveau du temps de l'expertise, 24 experts pensent que qu'il y ait avocat ou pas avocat, le temps de l'expertise que les avocats allongent le temps de l'expertise. Par contre, 23 experts pensent que avocat ou non avocat, le temps d'expertise ne changera pas. Voilà l'exploitation que j'ai pu faire des données du questionnaire. Sur le montant des honoraires, si oui, on demandait aussi en dernière question si on pensait que les avocats avaient un rôle sur le montant de nos honoraires. Il y a un avocat qui pense que les avocats font souvent opposition sur nos honoraires. Il y en a 14 qui pensent que les avocats font parfois des oppositions sur nos honoraires en trouvant qu'on est trop cher. 21% pensent qu'ils n'en font jamais, et puis 14 experts qui ne se prononcent pas parce qu'ils n'ont pas la réponse. Voilà l'exploitation qui a pu être faite de ce questionnaire.